Vous écoutez
RMC. RMC.
Je pense qu'aujourd'hui, on va pas se permettre de tuer l'ours avant de faire le championnat.
Je pense qu'on va pas brûler la peau de l'ours avant de l'avoir vendu.
C'est une position que j'aime bien aussi, donc voilà, c'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'Afterfoot, Nicolas Jamain.
Et oui, on est ensemble. Merci d'être avec nous si vous nous rejoignez. On est ensemble jusqu'à minuit. C'est l'Afterfoot avec Damien Perrinel. Damien Perrinel qui nous racontait qu'à New York, il a eu la chance d'être invité sur les parquets NBA. Les Knicks au premier rang. Avec Chris Rock à côté de toi.
Exactement, c'était incroyable. Je me disais, écoute, bouge un peu, j'ai un pote à faire venir, il est parti. Non, je déconne. Non, mais expérience incroyable.
Et François Manardo qui a eu la chance une fois d'être au 6e rang au stade du Ray.
Et à New York, la chance d'aller voir le Super Bowl.
Ah ouais ça. T'as payé la place ou...
Non.
Évidemment.
Tu fais
quelle honte. Quelle honte.
Accrédité. Toi, tu dis quelle honte, toi.
T'as dit qu'on travaillait alors.
Vous êtes tous accrédités.
J'ai toujours payé mes places.
Et tu sais qu'à l'époque, je me souviens très bien de cette période. Et les Airbnb, si on peut dire, les chambres d'hôtel.
Mais Airbnb, c'est Airbnb et ensuite accrédité pour le Super Bowl.
C'est-à-dire que c'était les prix avaient quadruplé, même quintuplé. C'était incroyable.
Deux heures d'after encore. Il y aura le Mercato Show dans un instant, bien sûr. On parlera de l'attaquant du LOSC, Pépé. On évoquera également la communication des joueurs. Les joueurs face à la presse, face au micro, face aux caméras, qui les conseille pour nous servir parfois.
Et les entraîneurs aussi, parce qu'on va
entraîneurs aussi, parfois de la soupe froide après les matchs ou pendant les entretiens. Attention, il y a d'excellents clients également dans le football, bien sûr. Damien, tu nous parleras de ton expérience également. On aura deux conseillers en communication et un joueur également qui sera là dans un instant. Mais d'abord, messieurs, des nouvelles d'un coach qu'on a vu côtoyer, écouter la saison dernière en Ligue 1, entraîneur du Stade Malherbe de Caen, désormais coach du Cercle de Bruges. Fabien Mercadal est avec nous. Bonsoir Fabien.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous. On est heureux de vous entendre à nouveau.
Je suis heureux de vous avoir aussi. Je suis heureux de vous avoir aussi.
Entraîneur désormais d'un club belge, on l'a dit, le Cercle de Bruges. Début de saison aujourd'hui pour vous, hein?
Ouais, on a commencé aujourd'hui par un gros morceau. Hein. L'année dernière, j'ai commencé par le Paris Saint-Germain et cette année, je commence par le Standard de Liège.
Le Standard voilà. De Liège pour votre première en Jupiler Pro League, c'est le nom du championnat. Et vous avez démarré par une défaite 2-0.
Ouais, malheureusement, beaucoup de frustration parce qu'on fait vraiment un match intéressant. On a une prépa tronquée parce qu'on a changé beaucoup de joueurs. On a à 15 recrues et il nous manque encore 5 joueurs. Et voilà, on a tenu la dragée haute face à cette équipe du Standard et on a craqué à la 86e minute. Voilà, on a encaissé notre premier but, mais ouais, il y a des satisfactions malgré tout et on sait que notre championnat c'est pas contre ces équipes-là, mais il va falloir évidemment commencer à gagner des matchs.
Damien.
Bonsoir coach.
Damien Perrinel.
Bonsoir. Bonsoir Damien. Ça va?
Moi, c'est très bien, merci. Je voulais revenir justement sur cette situation un peu complexe au Cercle de Bruges avec on sait que donc c'est un club satellite de l'AS Monaco.
Ah bah oui.
Et avec de nombreux prêts très souvent des joueurs qui s'inscrivent dans un projet pour une saison. Est-ce qu'il n'est pas compliqué justement de trouver et de bâtir un collectif et un état d'esprit lorsqu'on arrive comme ça dans un club comme le Cercle de Bruges?
Ouais, c'est jamais facile parce que il y a pas mal de rotations, on en a conscience, mais si tu avais vu le match ce soir, ce qui a plu aux gens, c'est justement qu'il y a vraiment déjà une, comme ils disent, une team, un état d'esprit. Les garçons qui arrivent de Monaco, ben, ce sont à 99% fondus dans le moule. Des garçons, des flamands, hein, des garçons du cru, du coin, qui ont pour valeur principale au-delà de leur qualité technique, mais une grosse discipline et un énorme engagement. Voilà. Donc, je pense que la culture de la région peut servir des garçons qui viennent de Monaco qui ont des qualités.
Vous avez combien de joueurs prêtés par l'AS Monaco, Fabien, là?
Alors, pour l'instant, on en a 4.
Oui.
Voilà, on peut en espérer encore un, et puis il va nous falloir les entourer par 4 recrues, mais 4 recrues qui nous amènent une plus-value, parce que c'est vrai que voilà, on perd le match aujourd'hui parce qu'on est en difficulté sur les coachings. Voilà. Il nous manque vraiment de l'effectif, mais on travaille voilà avec le club. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est tout le monde a conscience du fait qu'on voilà, on est un petit peu en difficulté, mais tout le monde travaille dans le même sens et j'apprécie beaucoup. Moi, j'apprécie beaucoup ce pays, j'apprécie beaucoup le football de ce pays et malgré la défaite ce soir, je suis heureux ici.
Fabien, j'avais une question avant de donner la parole à François Manardeau qui vous écoute. Vous êtes salarié du de l'AS Monaco ou du Cercle Bruges? Il y a quoi sur votre contrat?
Salarié et coach du Cercle. Voilà,
du Cercle, d'accord.
Je suis belge.
Vous êtes belge.
Et très heureux de l'être vraiment.
François.
J'étais bien accueilli.
Coach, bonsoir. Bonsoir. Par rapport à ces recrues que vous désirez, est-ce que quand on coach le Cercle Bruges, et comme Damien l'a rappelé, qui est un club satellite aussi de l'ASM, est-ce que vous avez obligation de vous tourner vers Monaco pour aller piocher ces joueurs, ou bien vous avez en priorité, hein, quand je dis obligation, c'est pas que l'ASM, mais est-ce que c'est d'abord l'ASM, ou est-ce que vous avez entière liberté pour aller prospecter où vous voulez?
Non, on est vraiment pas obligé de recruter des monégasques. C'est on travaille et ça c'est Monaco là-dessus est vraiment pour moi dans le vrai, c'est-à-dire qu'on tente de valoriser les garçons qu'on récupère, et pour les valoriser évidemment il faut les encadrer, et on cherche à les encadrer par des garçons un peu plus expérimentés. Ce soir le jeune Serrano a fait un très bon match, le gardien Badiatile, c'est des jeunes joueurs, hein, mais a fait un très bon match. Voilà, donc on est sur ces on prendre aujourd'hui l'équipe réserve de Monaco, ça serait ni servir les jeunes de Monaco ni servir le Cercle. Donc voilà, on essaie de faire un bon compromis et c'est fait de manière intelligente, et je suis heureux d'avoir pu donner mon avis sur l'ensemble des recrues qu'on a fait venir.
Je vous pose encore une question par rapport à l'AS Monaco. Est-ce qu'il est vous serez amené dans la saison à parler avec, à faire des points, des bilans avec également Leonardo Jardim?
On a fait un match amical en début de saison, et voilà, moi j'ai pu échanger avec Leonardo Jardim, et je l'ai senti ouvert. On a partagé des choses. On s'est fait affronter l'année dernière, hein, et c'était une saison douloureuse pour tous les deux, mais voilà, c'est quelqu'un de très ouvert, et oui, j'échange avec lui avec un grand plaisir. Avec un grand plaisir.
Écoute, j'ai une question sur le jeu plus spécifiquement. Tout à l'heure, j'ai regardé une rediff d'un match Genk-Courtrai.
T'as des journées très bizarres.
Qui a repassé cet après-midi, c'était en ouverture, c'était hier soir.
Très bien, d'accord.
Mais j'ai vu vraiment un style de jeu ouvert, où ça calcule pas trop. Alors certes, tactiquement, c'est structuré, mais ça va vite d'un but à l'autre. Il y a pas mal d'espace, il y a de bons joueurs, il y a une bonne technique. Quel a été votre ressenti là sur ce premier match, justement, et peut-être dans la globalité sur le championnat belge?
Là, le standard, c'est quand même une équipe qui est sur le haut du classement, et il y a eu un match ouvert, c'est vrai, avec beaucoup d'engagement, de course. C'est presque entre le championnat français et le championnat anglais, mais pas mal de qualité technique quand même. Voilà, il y a de très très bons joueurs au standard, et puis nous on a répondu présent sur ce match là. Bon, il faudra qu'on monte encore en puissance, mais voilà, c'était un match de qualité d'un point de vue technique aussi.
Très bien.
François.
Coach, est-ce que vous avez déjà coché la date du 14 septembre prochain?
Ouais, bien sûr. Moi je couche toutes les dates, hein, parce que.
Non, mais celle-là est un peu spéciale.
Pourquoi, François? Dis-le.
Il va le dire, le coach. Il sait mieux que moi.
Ouais, c'est le match, je pense, pour les supporters le plus attendu.
Derby.
Voilà, et mais voilà, moi je
contre le club Bruges.
Le club, ouais. Et voilà, moi je connais le championnat belge, mais je découvre aussi des stades, et pour moi, ces derbies, c'est tous les jours. Hein.
Est-ce qu'on vous en parle beaucoup déjà au club, ou les supporters du derby?
Pas encore. Ils sont très bons enfants. Ils attendaient ce match du Standard. Ils savaient qu'on allait être en difficulté. Ils ont été très heureux. Ils nous ont applaudi à la fin du match. Voilà, tout ça, c'est des points positifs. On n'a pas évoqué encore ce match contre le club, mais ça va monter tranquillement. J'espère être capable de faire progresser mon équipe pour pouvoir résister à, parce que c'est quand même un sacré ogre, le club de Bruges.
Faut pas oublier que le coach succède à un autre coach français, hein, Laurent Guyot.
Exactement.
Qui était là l'année dernière. Et ce club de Bruges qui, Cercle Bruges, qui est monté de deuxième division en première division il y a 2 ans, il me semble. Je crois que c'est ça.
C'est ça.
Fabien, juste pour revenir sur le Stade Malherbe de Caen cette saison, qui a été douloureuse avec une relégation à l'arrivée, est-ce qu'elle est digérée déjà?
Digérée, non, j'avais pas connu cet état de fait, j'avais pas connu la relégation. Voilà, je la connais pour un but. Oui, j'ai souffert de, je m'en cache pas, hein, je suis pas un menteur, j'ai souffert de plein de choses. J'ai donné tout ce que je pouvais. Voilà, j'ai été, ça a été parfois très douloureux, mais ça m'a construit. Voilà, ça m'a construit. Et, ouais, je cache pas que je suis heureux d'avoir quitté la France.
Oui, on sent que c'est une vraie bouffée d'oxygène, si on se retrouve en Belgique là.
Ah oui. Bon, j'ai vécu des moments. Vous savez, il y a un truc que j'oublierai jamais. C'est un petit dessin qui a été fait dans l'équipe où on me voyait entre les fesses de Roland Courbis. Vous voyez, ils avaient imaginé qu'il s'était assis sur moi pour m'écraser. Et ça, j'avoue que ça a fait mal à ma famille et ça m'a fait mal aussi. J'ai trouvé ça vraiment inadapté. J'ai proposé au journaliste de venir tenter de s'asseoir sur moi. Bon, il n'est pas venu. Et voilà, donc on est des entraîneurs, mais je suis un homme aussi.
C'était pas une réalité en plus, Fabien. C'était pas la réalité.
C'était pas la réalité. Ça se passait très bien avec Roland, mais bon, ils avaient décidé que ça se passerait mal. Et ouais. Voilà, en tout cas, j'ai pas aimé cet angle de vue et puis ce côté agressif. Contre un club qui était en difficulté. Donc je suis heureux d'avoir quitté tout ça aujourd'hui. Je suis très heureux de me retrouver en Belgique et je vais tout faire pour vivre le mieux possible, mais en tout cas de continuer à vivre ma passion. Ça c'est le plus important.
Et c'est une très belle ville en plus, Bruges. Hein. Très belle ville belge. Magnifique. Bon,
c'est une belle ville et c'est un sacré beau pays. Moi, j'étais à Dunkerque pendant 4 ans. J'allais souvent faire des tours en Belgique. Quoi. J'aime beaucoup. J'aimerais vraiment servir mon club et réussir quelque chose ici.
Ouais, c'est plus sympa que Dunkerque, ça je peux confirmer.
Ah non, mais vous vous trompez. Non,
j'ai vécu dans le Nord 4 ans à Boulogne, moi. Je sais tout ça, Calais, ouais. Dunkerque.
Non, mais Boulogne, c'est pas pareil. Non, Dunkerque est magnifique, le carnaval. Non, c'est une belle région, mais Boulogne aussi, d'ailleurs.
Le carnaval de Dunkerque. Merci beaucoup, Fabien Mercadal, d'avoir répondu à nos questions dans l'after.
Merci, coach.
On vous souhaite une très belle saison.
Merci d'avoir pensé à moi aussi et puis bonne saison à vous. À bientôt.
Merci à vous. Merci, coach. Témoignage hyper intéressant, tu vois, qui va en contradiction avec notre thème suivant, la communication, la langue de bois. Sincère, on peut être un bon client, comme on dit dans la presse.
Ah oui.
Si on est sincère également. Et il a été.
Oui, non, mais moi je pensais pas à la contradiction parce que oui, comme tu le dis, t'as des bons clients et mais la communication n'est pas là que pour faire de la langue de bois,
hein. Ouais, ou plaisir aux journalistes en tout cas qui posent des questions. L'after revient dans un instant, bien sûr, avec Damien Perrinel et François Manardo, bien sûr, dans un instant le Mercato Show, bien sûr, avec l'actualité Pépé qui pourrait rejoindre Arsenal plutôt que Naples. À tout de suite.
RMC, jusqu'à minuit, c'est l'Afterfoot, Nicolas Jamain.
L'Afterfoot ce soir avec Damien Perrinel, avec François Maillardeau qui est là ce soir, François Manard.
Et Nicolas Jamain.
C'est que longtemps, moi, Bordelais, supporter girondin, gamin, qui allait au Parc Lescure d'ailleurs à l'époque.
J'ai jamais très bien compris, Nico. T'es plus Bordelais que niçois, on est d'accord.
Mais je suis né à Bordeaux.
Tu connais bien Nice.
J'ai vécu à Nice aussi, mais je suis mon cœur à Bordelais.
Okay, voilà.
François, tu sais que longtemps je croyais que t'étais Bordelais. Tu te rappelles, c'est pourquoi ? Le sponsor maillot.
Oui, Malardo.
Malardo.
Qui a équipé le maillot d'une grande époque girondine.
Giresse.
Oui, Giresse. Gana. Girard.
Exactement.
Touvenel.
Fargeon.
Fargeon. On leur demande aussi, comme t'as fait pour Le Monde, de nous mettre des joueurs de Bordeaux du
Cruyff. C'est un petit peu sale, t'en es bien tiré.
Désolé, les gars, j'étais pas né.
Arrêtez avec cette excuse. Non, mais c'est pas possible.
Bordeaux champion en 2009, champion en 2019, champion de 2009, 99, champion tous les 10 ans Bordeaux.
Mais pas avec Mario Malardo.
On a loupé. Non, pas avec Malardo.
Non. Mais avec Malardo, ils sont champions.
Ouais, ils doivent l'être. Ouais.
Oui,
si, quand même. Époque GRS, ils le sont.
Dropsy. Tiens, je cherchais le gardien.
Exactement, Dominique. Dropsy, le regretté Dominique.
Le regretté.
Dropsy. C'est l'heure du Mercato Show.
C'est combien ?
30 000.
Attends, je vais te le marcher.
Allez, 27 000 avec le tam-tam.
Non, fais-moi 30 000.
Bon, allez, laisse tomber. Fais-lui, c'est 30 000. C'est un con.
Avec Christophe Plenet. Je sais même pas quel supporter de
Saint-Etienne.
Mais oui, évidemment, suis-je bête. Laisse.
Mais oui.
Il y a beaucoup trop stéphanois dans la rédaction.
Vert, moi.
Énormément. On va démarrer avec le feuilleton. Nicolas Pépé.
Dans le mercato, tu le sais plus qu'ailleurs, la vérité du jour n'est pas forcément du lendemain. Voilà. Le cas Nicolas Pépé en a encore l'exemple parfait. Alors messieurs, ces deux derniers jours, l'attaquant du LOSC était surtout évoqué du côté de Naples, ouais. Où ses agents s'étaient rendus pour négocier les détails d'un futur contrat de 5 ans. Et aujourd'hui, surprise, c'est finalement à Arsenal que Nicolas Pépé pourrait atterrir. Alors d'après la Sky Italia et la BBC, les Gunners devraient rafler la mise à la dernière minute, jamais réellement cité dans la course pour l'Ivoirien. Le club londonien aurait réussi à convaincre le LOSC avec une offre à hauteur de 80 millions, faisant de Nicolas Pépé eh bien, tout simplement la recrue la plus chère de l'histoire du club des Gunners, hein, devant Pierre-Emerick Aubameyang. Mais c'est là que ça devient rocambolesque. Alors que l'arrivée de Nicolas Pépé à Arsenal semble imminente, on a appris également aujourd'hui que le PSG et Leonardo auraient bel et bien trouvé un accord avec le LOSC pour s'attacher les services de Nicolas Pépé.
C'est un ménage à trois compliqué là.
C'est incroyable. Ouais. Donc en gros, Arsenal a pris beaucoup d'avance, mais le PSG est encore dans la course.
Et Naples, a priori,
décroché.
Naples,
ça semble terminé.
Bon, on en a parlé pendant deux jours, hein. Nicolas Pépé à Naples, dans un premier temps, c'était une rumeur insistante, c'est vrai, mais c'était une réalité également. Naples avait un coup d'avance sur tout le monde. On disait qu'il n'avait pas forcément le profil, moins le profil pour la Serie A que pour la Première Ligue, Damien.
Bon, on disait,
a priori, c'est plus cohérent, là, s'il va.
On disait que c'était surtout Ancelotti hein, qui pouvait lui faire franchir un cap à Naples. Mais c'est vrai que les caractéristiques, les spécificités du championnat anglais, en tout cas, correspondent plus aux qualités de Nicolas Pépé. Et d'autant plus quand à côté de toi, t'as un buteur comme Lacazette qui peut jouer en pointe et un Aubameyang. Ouais, ça peut aller très vite hein, du
ça
côté.
Ça peut faire un sacré.
Du côté des Gunners, ça peut être une course. Hein. Maintenant, à voir le schéma tactique de Emery. Il va falloir qu'il joue à trois devant et ça, c'est lui qui décide tout ça.
Ça peut être dingue, hein, cette triplette offensive. François.
Moi, je partage pas votre avis sur un championnat plus fait qu'un autre.
Il y a des profils caractéristiques de joueurs.
Quand t'es bon, tu peux jouer partout.
Bon, alors vous le dites à ma place.
C'est puis, vas-y, François.
Je vais aller boire un thé. Non, mais je partage pas quand on a affaire à des joueurs techniquement et dans la vitesse d'exécution du calibre d'un Pépé. Je pense qu'ils sont bons dans n'importe quel championnat. Je pense que, en revanche, je vous rejoins sur des joueurs moyens, voire des joueurs médiocres qui arrivent à faire illusion et on en a tous vu et on en verra encore. Là, oui, le joueur qui est moyen techniquement pour un joueur offensif, hein, parce que je pense que c'est une assertion qui vaut plus pour les joueurs. Voilà, il faut lui trouver le bon championnat parce que si tu vas en Italie que techniquement t'es pas très à l'aise, mais que physiquement t'as de belles qualités, ben c'est peut-être pas un championnat fait pour toi. Et en Allemagne, en Angleterre, on le sait, on dit t'as plus d'espace, donc ça devrait plus te convenir. Pour un profil comme Pépé, qui est un joueur, je pense qu'il y a une très belle carrière devant lui, il y a un très beau joueur. L'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, ça va, tu t'es bon, et ben tu dois réussir dans ces championnats-là.
Ouais, regarde François, on avait un profil à l'époque, je parle souvent de lui hein, parce que voilà, mais un Thierry Henry. Il passe à la Juve. Alors certes, il jouait pas à son poste.
Il a même joué latéral à la Juve. Il joue côté gauche.
Voilà, ouais. C'est quelqu'un quand même qui est techniquement qui est au-dessus de la moyenne, qui est un peu les mêmes profils. Voilà, et il s'est vraiment révélé une fois qu'il est parti en Angleterre.
Alors, vu qu'on le connaît un tout petit peu tous les deux, et il t'a parlé de ses 6 mois à la Juve, il a pu m'en parler, et il t'a dit que sur la fin de ces 6 mois. Notamment, je me souviens d'un match qu'il fait à Rome contre la Lazio. Mais il commence à prendre ses repères, à prendre ses marques et à s'adapter. Le jeune Thierry Henry, champion du monde, qui n'a pas l'expérience qu'on lui a connue par la suite. Voilà, il commence à s'adapter à ce championnat. Qui est une phase d'adaptation, je ne le discute pas. Mais que le championnat soit pas fait pour toi, je pense que après Titi serait resté en Italie. Alors, il restait pas à Turin, il voulait le prêter. Ça, c'est une autre histoire. Il voulait le prêter pour un maillot qui ressemble à celui de la Juve, qui est celui de l'Udinese. Non, mais ça aurait pu changer sa carrière, les amis. Hein. Moji voulait prêter Thierry Henry à l'Udinese. Et là, quand même, Thierry Henry, il fait, bon, là, non, ça, on va, non. Ça va pas se passer comme ça, monsieur Moji. Arsène Wenger est très vite arrivé et il connaissait le joueur. Mais voilà, pour revenir à ce que je voulais vous dire, c'est que pour les très bon joueur. Je pense que Nicolas Pépé va en faire partie. Ouais, je pense que les quatre grands championnats européens, ça, tu t'adaptes. Et puis, après, t'as les qualités qui parlent d'elles-mêmes.
Et Paris a une chance de doubler Arsenal, selon vous?
Je pense que l'association.
Il y a un bouteillage, là.
Je pense qu'il y a plus de chances qu'il soit titulaire avec les Gunners qu'avec le PSG. Voilà. Et à ce prix-là, au prix dont tu nous parles, et qui sont les prix qu'on entend depuis plus de 10 jours maintenant sur Nicolas Pépé, c'est quand même un mec que tu mets titulaire, 80 patates quoi, pour que tu le fasses jouer.
T'en fais quoi sur le terrain dans le schéma offensif?
Si Neymar reste en plus.
Si Neymar reste.
Tu fais quoi avec Pépé? Ils n'ont pas 40 millions à mettre sur un gardien.
Di Maria, Pépé, Cavani, Pépé, Neymar.
Embouteillage.
Pas possible.
Non.
Trop de joueurs de classe.
Après, le joueur, si tu lui mets un salaire
prime à la signature qui l'emporte par rapport à Arsenal, le joueur il peut aussi faire une connerie, hein, puisqu'on va parler de la com où ils sont pas toujours très bons. Ils peuvent des fois aussi faire de mauvais choix sportifs. Ils ont le droit.
Voilà pour le dossier PP. Le PSG espère hein, peut-être boucler et faire attirer PP dans ses rangs. Mais Gueye, en revanche, Idrissa Gana Gueye, c'est fait.
Ça se précise, ouais, de plus en plus. Alors qu'Everton et le champion de France ont déjà trouvé un accord à hauteur de 30 millions d'euros plus 2 de bonus. Le club et le joueur ont avancé dans leurs négociations. On sait désormais avec certitude que le Sénégalais de 29 ans va signer un contrat de 4 ans dans la capitale avec une option pour une saison supplémentaire. Sa visite médicale se tiendra lundi. Il arrive lundi en France, le Sénégalais, et l'officialisation de son transfert aura lieu au plus tard mardi.
Tiens, tu dis, pardon, en France, il est rejoint en Chine, c'est ça?
Non, il viendra à Paris.
Passer sa visite médicale à Paris.
Voilà, et signer son contrat.
Tiens, j'ai oublié au 32-16 Max qui nous a appelé. Salut Max.
Salut les gars. Du coup, vous m'avez oublié.
Mais, non, t'inquiète. Salut, Max. Désolé. Tu voulais nous parler de PP Arsenal. Toi, tu es un supporter des Gunners. Tu accueilles avec enthousiasme l'arrivée de PP. Si elle se confirme.
Oui, c'est ça. Oui, absolument. Parce que je pense que c'est très prometteur l'association, le trio d'attaque qu'on peut avoir avec. Aubameyang, Lacazette et Pépé. Et juste parce que pour revenir vite fait à ce que vous disiez sur votre débat, il y a deux choses. La première, c'est que je pense que le fait que le Paris puisse finalement arriver à faire signer Pépé, ça me paraît peu réaliste par rapport à justement ce que vous disiez sur le fait que Pépé ait plus de chances d'être titulaire à Arsenal. J'ai l'impression que lui et son agent, ils aient la tête plus ou moins bien faite en fait, et que du coup ils vont privilégier ça. Puis aussi un autre truc, c'est qu'ils sont déjà d'accord. Moi, ce que j'ai vu aujourd'hui sur les différents site d'information sportive, c'est que ils sont déjà d'accord au niveau de la commission de l'agent, au niveau du salaire, etc. Ça me paraît compliqué que le PSG puisse remettre ça en cause en l'état. Et puis la deuxième chose, c'est que par rapport au fait que Pépé puisse jouer partout et s'adapter partout, je pense que c'est vrai vu son talent, vu ses qualités. Mais je pense surtout qu'en fait, c'est plutôt par rapport à s'il va réussir à passer un cap en fait dans son niveau de jeu, dans sa carrière. Et je pense qu'il sera plus à même de le faire en première ligue avec Arsenal. Naples.
Après, il y a un détail qu'on nommait, c'est il aurait pu jouer la Champions League avec Lille, avec Naples également, avec Paris aussi, mais pas Arsenal.
C'est un détail important. Oui, Arsenal, 6e de Première Ligue, hein, qui perd en finale d'Europa League. Chelsea, 5e, s'est qualifié pour la Ligue des Champions. Pas de phase de poule pour Arsenal, Max.
Ouais, alors, ça... Pardon, pas toi, parce que moi,
T'as pas mes cheveux, là. Il est ému. T'es vraiment en train de pleurer, Max, là. C'est pas grave, hein.
Non, mais en fait, je pense que, déjà, pour Arsenal, c'est bien, parce que ça, faire un gros transfert comme ça d'un joueur qui est très désiré en Europe, ça montre que, symboliquement, que Arsenal est là encore et qu'ils ont encore l'ambition de retrouver le statut qui, selon moi, doit être le leur en termes de résultats. Mais surtout pour Pépé, je pense que c'est une bonne transition aussi de passer de la Ligue 1 à la Première Ligue. On va quand même pas cracher dessus en termes d'intensité, en termes de niveau de jeu, c'est mieux. Et puis espérons qu'il nous qualifie en Ligue des Champions pour qu'il la découvre avec nous. Et à ce moment-là, on va tout péter, on va la gagner.
Je ne sais pas si c'est mieux. En tout cas, en effet, c'est que c'est tous les week-ends, c'est dur la Première Ligue. Alors que parfois, il y a des matchs en France où tu peux relâcher contre certaines équipes, alors que en Angleterre, c'est un combat de tous les instants, tous les week-ends.
Mais il va avoir des espaces de fou, Pépé, hein, pour s'exprimer, hein, pour manger les espaces, justement. C'est vrai qu'il a un super profil pour Pépé. Merci, Max, d'avoir appelé le 32-16.
Merci. Et si je peux juste rapidement passer une petite dédicace à mon collègue Arthur au Paris Normandie. Voilà, on a fait le bouclage du journal pour les pages sport ce soir ensemble. Donc voilà, je fais un petit coucou.
C'est quoi la une?
La une, oula.
Des pages sport, au moins.
C'est pas du sport, non.
Ah, c'est pas du sport, d'accord.
On parle du FC Rouen.
Très bien.
Tant que c'est pas Clinton NG.
Tant que c'est pas Clinton NG, effectivement. Merci beaucoup, Max, d'avoir appelé au 32-16. Excellente saison avec Arsenal et peut-être Pépé dans les rangs des Gunners. Tu voulais rajouter un mot, François, je crois.
Non, du coup, je me demandais par rapport au fait qu'il n'y a pas la championne à Arsenal, mais qu'il aurait plus de chances de jouer plus de matchs qu'à Paris. Est-ce que ce serait pas Naples qui pourrait revenir dans le coup? Parce que t'as la Champions, et s'ils le prennent, je pense qu'ils joueraient en tant que titulaire.
En tous les cas, la préférence du LOSC irait pour Naples, car il récupérait un gros chèque, et Adam Ounas pourrait rallier le Nord, et ça plairait beaucoup à Christophe Galtier, qui voulait déjà le joueur quand il était à Saint-Etienne.
64 millions d'euros, je crois, plus Adam Ounas dans la transaction, mais bon, lui, a priori, préfère rejoindre Arsenal. Nicolas Pépé. Tiens, le PSG, on en parle encore, avec des jeunes très convoités.
Oui, après Moussa Diaby et Christophe Antoine Nkunku, respectivement partis à Leverkusen et à Leipzig. C'est Stanley Nsoki qui devrait être le prochain jeune parisien de l'équipe première à faire ses valises. On a appris aujourd'hui qu'outre-Manche, Newcastle s'active vraiment pour convaincre le natif de Poissy de rejoindre ses rangs. Les dirigeants des Magpies ont formulé une offre, une première offre de 8 millions d'euros. Première offre jugée trop basse pour l'instant par les Parisiens. Le latéral parisien qui n'a pas joué aujourd'hui avec le PSG contre l'Inter, mais selon Loïc Tonzi, journaliste de la rédaction et envoyé spécial en Chine pour suivre le PSG, il n'y a pas de relation sur le fait qu'il n'ait pas été sur la feuille de match et impossible transfert. Stanley Nsoki a une petite gêne musculaire, a ajouté Loïc.
C'est dommage de laisser partir Nsoki.
C'est-à-dire que selon son profil aujourd'hui, axe gauche, arrière gauche éventuellement, il y a du monde.
Et le petit Becker que j'ai trouvé,
au PSG cette saison non plus.
Le petit Becker, le néerlandais là qu'ils ont pris à l'Ajax, 19 ans, il est rentré 10 minutes, mais je l'ai trouvé intéressant. À voir. Il a piqué ma curiosité, voilà ce que je voulais vous dire.
Mais c'est fort, hein. S'il a réussi à piquer la curiosité de François Merardo.
Il a piqué ma curiosité.
On est peu à pouvoir faire ça. Un autre Parisien, encore plus jeune, pourrait lui aussi partir.
Ruben Providence, le jeune attaquant de 18 ans de PSG, devra en effet s'engager très rapidement avec l'AS Rome pour 3 ans. C'est un ailier polyvalent, il doit signer un contrat professionnel de 3 ans, je l'ai dit, avec le club italien. C'est un joueur créatif et efficace dans le 1 contre 1. Il faisait partie avec Capo, Fadiga ou Aouchiche de l'équipe des U19. De Thiago Motta la saison dernière. Dans ce dossier, Paris pourrait encaisser 500 000 euros et Paris aurait même négocié un pourcentage à la revente.
Ah, le fameux pourcentage à la revente dans chaque transfert désormais, François. Mais c'est vrai, c'est une vraie tendance ça également.
Oui, il s'agit.
C'est pour éviter les regrets éventuels 3 ans après.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise là-dessus? Ouais, c'est bien, ouais, le pourcentage à la revente.
Dont on parlait
parce que ça n'existait pas, et puis maintenant, il y a des bonnes idées.
Pour finir avec le PSG, Christophe, Trapp s'éloigne de Porto.
Oui, en effet, à la recherche d'un gardien depuis de nombreuses semaines, le FC Porto, eh bien, ce serait fait une raison, messieurs. Les dirigeants portugais pensent que Kevin Trapp va être conservé par le Paris Saint-Germain. Du coup, selon les médias mexicains, les dragons du FC Porto ont désormais une priorité, recruter Agustin Marquezin, le gardien international argentin de 31 ans qui évolue au Mexique, au club de l'Amérique.
Mais d'où venait le lien mexicain? Arrives dans ta chute.
Agustin Marquezin.
C'est ça.
Merci. On fait une pause dans la page Mercato. On va revenir dans un instant avec toi pour évoquer notamment l'arrivée de Boudbouze à Saint-Etienne. C'est fait. Et les Verts, plus globalement, le Mercato de l'AS Saint-Etienne. On revient dans un instant. C'est l'after. On est ensemble jusqu'à minuit avec Damien Perrinel, François Manardo et Christophe Plenet. À tout de suite.
RMC, l'afterfoot, Nicolas Jamain.
Avec Damien Perrinel, avec François Manardou, avec Christophe Plenet pour le Mercato Show du jour. Le Mercato Show à Saint-Etienne avec une officialisation. Boudbouze, Riyad Boudbouze, c'est fait.
Ouais, c'est officiel, Nico. L'international algérien a signé cet après-midi un contrat de 3 ans avec le club stéphanois. Il arrive en provenance, vous le savez, du Betis Séville. Le montant du transfert s'élève à 3,5 millions. Alors Boudbouze, c'est 25 sélections avec l'Algérie. Il est formé à Sochaux. Il est passé ensuite par Bastia, par Montpellier. Il remplacera Rémi Cabella, parti à Krasnodar. Il hérite même de son numéro, puisqu'il portera le numéro 7. Boudbouze en Ligue 1, c'est quand même 301 matchs pour 45 buts et 50 passes D. C'est quand même pas mal. Il a signé donc cet après-midi et il s'est envolé directement avec le groupe stéphanois pour l'Angleterre.
C'est un super coup pour Saint-Etienne. 3,5 millions d'euros Boudbouze. Un joueur référencé en Ligue 1 qui va retrouver Wahbi Khazri surtout.
Super. Et Ghislain Printemps.
Connu à Bastia.
Oui. La bonne affaire pour Saint-Etienne.
Ils ont réagi très vite.
Aussi bien avec le départ de Cabella que cette arrivée. Un joueur talentueux qui va venir certainement avec un esprit un peu revanchard par rapport à sa dernière saison au Betis. Et pourquoi pas, il me semble qu'il est algérien et qu'il y a peut-être aussi un nouvel élan avec l'Algérie sur une prochaine Coupe du Monde, pourquoi pas. Donc il a beaucoup de choses à prouver.
Même s'il n'était pas dans le groupe de Djamel Belmadi avec
Il était international à l'époque Vahid Halilhodžić au sein de la sélection algérienne.
C'est pas un joueur qui est hors circuit, c'est juste que avec le Betis.
Il a que 29 ans.
Ouais. Et il était prêté l'an dernier au Celta Vigo par le Betis. C'est Setién, l'entraîneur du Betis, qu'il faisait jouer sur un côté, et c'est plus un vrai numéro 10 à l'ancienne Riyad.
Non, moi je sais pas si c'était un coup qu'ils avaient déjà dans leur petit papier, les Stéphanois, pour doubler le poste de Cabella.
Ça faisait plusieurs fois François
qu'il l'approchait, mais si c'était pas le cas, et même il savait que Cabella, a priori, il pensait que Cabella allait continuer lui aussi l'aventure stéphanoise. mais ils ont réagi très vite.
Après, ce qu'on ne sait pas, c'est que Cabella, il a la proposition de Krasnodar depuis 12 jours.
C'est ça.
Donc, bien avant de partir aux États-Unis pour les Ligue 1 Games. Donc, du coup, quand Cabella a prêté une oreille attentive au club russe, il en a informé ses dirigeants et du coup, rapidement, les Stéphanois se sont tournés vers Boudbouz.
Voilà pour Riyad Boudbouz qui arrive donc à Saint-Etienne, les Verts qui n'ont pas encore terminé leur mercato d'ailleurs.
Non, la priorité pour Ghislain Printemps et pour la SS, c'est désormais un milieu de terrain d'envergure pour épauler Yann Mvila dans l'entrejeu. Alors beaucoup de noms ont été évoqués et d'après nos infos, il se murmure que la priorité des Verts serait un certain Mario Lemina.
Ah.
Âgé de 25 ans, l'ex-Marseillais, l'ex-Turinois qui appartient à Southampton dispose d'un bon de sortie. Hein. Il n'a d'ailleurs pas été retenu début juillet pour le stage de reprise de son équipe en Autriche. Ça discute avec Mario Lemina, le problème c'est que c'est cher.
C'est cher, Mario Lemina.
Oui, on parle de 15 millions d'euros.
15 millions d'euros, Mario Lemina.
15 millions pour Mario Lemina.
Pour essayer de se le faire prêter avec une option d'achat automatique l'an prochain.
Mais l'idée n'est pas sotte hein, de relancer ce joueur de 25 ans, comme ils l'ont fait avec Yann Mvila, par exemple. Un peu son profil de revancheur, mais après, bien sûr.
Yann Mvila a montré un peu plus de choses. C'est un meilleur joueur, voilà, pour le dire autrement. Et Mvila, Stéphanois sûr, monsieur le Stéphanois?
Alors, pour l'instant, il est Stéphanois.
Ça bruisse un peu.
Il y a
hein.
des clubs qui voudrait bien le signer, mais pour l'instant, pas de proposition concrète.
C'est quoi son souhait, lui?
Sur le bureau des dirigeants. Lui, son souhait, c'est de rester à Saint-Etienne, de disputer une Coupe d'Europe avec Saint-Etienne. Oui. Il disputera la Ligue Europa. Il a poussé de tout son poids pour que Ghislain Printemps succède à Jean-Louis Gasset. Donc, ce serait dommage de le voir partir maintenant. Après, voilà, il est professionnel. Si demain un club arrive et lui propose de quadrupler son salaire,
une offre qu'on ne peut pas refuser,
mais 20 millions,
il aura plus envie de jouer la Coupe d'Europe.
Ce sera compliqué. On sera vite fixé. De toute façon, le mercato anglais se termine le 8 août.
Le 8 août.
Et a priori, même si Komoli aimerait l'attirer également en Turquie à Fenerbahçe, c'est plus les clubs anglais qui pourraient s'offrir un Mvila.
Enzo Crivelli quitte Caen pour l'Istanbul Başakşehir.
Exactement, c'est Caen qui l'a confirmé aujourd'hui.
Projet sportif.
Je ne sais pas. Il avait marqué 8 buts en 44 matchs.
C'est une équipe. Hein. Attends, il faut la championne, Başakşehir.
Ça, c'est une bonne question.
Et pour
non, mais parce que c'est un peu le nouveau club
d'Istanbul.
Depuis son agent, c'est Stéphane Courbis, donc s'il le place là-bas, c'est qu'il doit avoir des bonnes raisons. En tous les cas, merci la page. C'est par ces mots que le Stade Malherbe de Caen a confirmé sur son compte Twitter le départ de Crivelli. On parle d'une indemnité de transfert de l'ordre de 2,5 millions d'euros pour Enzo Crivelli. Alias Lapache.
Didier Ndong, joueur de Guingamp, mais qui va pas l'être pour très longtemps encore, il devrait rejoindre Dijon.
Ouais, exactement. Didier va nous quitter, c'est pratiquement fait, à confier l'entraîneur guingampais Patrice Lair au Télégramme. Il va retourner en Ligue 1 et il y a de fortes chances que ce soit à Dijon.
Dupé, gardien nantais, prêté à Clermont.
Exactement. Les deux clubs ont en effet trouvé un accord pour le prêt d'une saison sans option d'achat de Maxime Dupé cet après-midi. Et en parallèle, le gardien a prolongé son bail d'une saison supplémentaire avec son club formateur.
Deuxième du championnat turc, hein, Başakşehir.
Deuxième, merci. Deuxième. Tiens, moi aussi, j'étais en train de courir après l'info.
Exactement. Non,
super opportunité.
Crivelli en Champions.
C'est fantastique.
C'est fantastique. Pour Crivelli.
Champion à deux points seulement.
Il
n'y
a pas un petit tour préliminaire.
Je pense qu'il y a un tour de qualif quand même à passer pour
Başakşehir. En poule, à mon avis.
Ils sont pas encore en poule, mais tu as une opportunité.
Ouais, ce serait une possibilité pour Crivelli.
Parce que la rélégation, une opportunité pour la Champions, si tu réfléchis. Non, tu y vas.
À l'étranger, James devrait rester au Real Madrid, finalement.
Exactement, Nico. C'est l'émission très sérieuse espagnole El Chiringuito.
Chiringuito,
exactement. James Rodriguez. D'abord annoncé partant, devrait finalement rester au Real Madrid la saison prochaine. La cause, la grave blessure, bien sûr, de Marco Asensio. Hein. Ça change la donne. Blessé au ligament croisé, Asensio va manquer de longs mois de compétition. Une situation qui change considérablement donc la place de James, désormais candidat à une place dans la rotation de l'équipe de Zidane. Mais cela pourrait ne pas lui convenir. Hein. Il veut une place de titulaire et on l'annonce à Madrid ou encore à Naples.
Donc, Atlético.
Ouais.
Ouais.
À suivre.
Pour Rames, mais quand t'as Rames dans ton équipe, tu le gardes forcément. Magnifique joueur, François.
Sauf quand t'as une offre. Sauf quand t'as une offre que tu ne peux pas refuser. La SM ne l'a pas gardé.
Ça fait un moment quand même qu'il est au Real Madrid et il a été prêté au Bayern.
Deux ans de suite au Bayern.
Non, mais quand ils ont une offre en 80.
Mais Zidane, je crois qu'il ne l'aime pas trop, ouais, hein, justement.
Je suis assez d'accord avec Damien. Je ne suis pas sûr que Zidane soit très fan.
Ce ne soit pas la tasse de thé. Mais bon.
Il aimait bien la nuit madrilène, Fred nous disait.
Je crois que son joueur préféré, c'est Gareth Bale. Et juste en dessous, il y a Rames.
On rappelle que M. Bale a décidé du choix sportif également. Le projet, il est parti en Chine.
Ouais.
On parlait du marché chinois, hein?
On va en parler,
franchement. Il y a des sous. Ça commence à faire beaucoup, là, maintenant, pour le marché chinois. On va en parler dans un instant avec toi, justement. Christophe, tiens, Lukaku, lui, il est entre l'Inter et la Juve.
Ouais, il souhaite quitter Manchester United, ça, c'est sûr. Il aimerait rejoindre l'Inter, on le sait. Mais face au prix élevé demandé par les Red Devils, les interistes ont du mal à finaliser la transaction et pourraient se faire doubler, finalement, par la Juventus. Hein, la vieille dame, on l'a appris aujourd'hui, auprès de la Sky Italia, s'apprêterait à faire une offre pour Romelu Lukaku avec un chèque et Dybala dans la balance.
Ouais, Dybala, donc, également présenté au PSG il y a quelques jours, quelques semaines. Peut-être, voilà, quitter la Juve.
Et donc, là, il n'y a rien qui vous surprend sur l'échange, en fait, d'un chèque plus Dybala pour Lukaku.
Ça paraît énorme.
C'est incroyable, quand même. Joueur avec une
grosse qualité, chèque après, Lukaku, si le chèque, mais, 1 million d'euros, éventuellement.
De là à le troquer avec
un
Dybala.
Ce sera pas un énorme chèque, mais il y aura un petit chèque plus Dybala.
Je trouve ça surprenant. Je remets pas en question la valeur de Lukaku, mais je trouve l'échange surprenant, quoi.
François n'a pas d'avis là-dessus.
Non, je cherche.
Est-ce que tu es avec nous ce soir?
Alors, oui, je suis avec vous, monsieur Jamin. Vous me faites un petit procès d'intention et je vais vous répondre. Alors, je répondrai que je cherche à savoir si Bakashehir est directement qualifié en C1 ou bien, comme le doute plane grâce à Christophe, eh bien, s'ils doivent passer par les playoffs.
Ouais, si on verra qui
vélo ou pas. Quasiment sûr qu'ils doivent passer.
Ouais, oui, mais quasiment sûr, il y a quasiment. Donc,
deuxième, je pense qu'il y a même un troisième tour préliminaire et les barrages.
Pour le deuxième du championnat de Turquie.
Il s'est renseigné, je pense.
Regarde, bien. On enchaîne dans ce Mercato Show avec Daniel Alves qui propose ses services, lui, carrément, sur Instagram.
Ah oui, c'est bon, ça. Histoire incroyable. Après deux saisons au PSG, Daniel Alves est aujourd'hui libre de tout contrat, vous le savez, les garçons. Et à 36 ans, eh bien, le Brésilien a tout simplement lancé un appel plein d'humour sur les réseaux sociaux. Alors, ouvrez les guillemets. « Je cherche un boulot », a-t-il écrit. « À qui dois-je envoyer mon CV ? Que quelqu'un me fasse signe si vous avez le temps de lire ce message. » Original comme approche.
C'est très bon. On parle du joueur qui est le meilleur joueur de la Copa América, hein, quand même. Hein, qui est au chômage, qui cherche du boulot.
Ouais, il y a un problème.
Oui,
l'humour,
c'est
un problème. Oui. Mais c'est pour l'humour, mais bon, en même temps, je sais pas, il doit peut-être se poser ses questions. Après, par rapport à ses prétentions salariales, par rapport encore à ses ambitions, c'est ceux qui reconnaissent le plus difficilement qui vieillissent, c'est encore les joueurs, hein, enfin, c'est les athlètes. Peut-être qu'il se dit, tiens, il va falloir que je baisse mes prétentions pour rebondir, parce qu'un club, oui, il le trouvera.
Il a été très bon durant la Copa América.
Ouais, élu meilleur joueur de la Copa América. Il a 36 ans, Daniel Alves, hein. Sûrement des services encore à rendre pour un club qui le choisirait. Damien,
on rend hommage à Christophe quand même.
J'en étais sûr qu'il avait raison, évidemment.
Voilà, il a raison. Match aller le 6 août pour Istanbul.
Bon bah, on rend hommage. Attends, moi j'ai donc posé la question.
Troisième tour préliminaire
et play-off, et éventuellement. Voilà. Pour le deuxième du championnat. Donc,
Enzo Crivelli, je trouve pas ça. Il n'est pas encore en poule avec.
Il n'est pas encore, ouais.
Avec son nouveau club istanbuliote. Et donc,
surtout pour l'UEFA et parfois pour RMC.
Ouais, c'est ça. Hein.
Surtout.
Mais tu pourrais être mieux renseigné.
Tu sais qu'il y a 55 fédérations. Hein. Si je savais les 55 par où elles doivent passer pour accéder à la finale.
Ça s'appelle la rigueur, monsieur. Ça s'appelle la rigueur.
Oui. Viens voir la rigueur avec moi sur les terrains.
Tiens, le Vissel Kobe officialise la venue de Thomas Vermaelen.
Exactement. Pressenti ces derniers jours, le transfert de Thomas Vermaelen au Vissel Kobe a été officialisé ce matin. Alors, le défenseur belge de 33 ans en fin de contrat avec le Barça va retrouver dans le club japonais plusieurs joueurs qui avaient eux aussi évolué en Catalogne. Hein, pas des moindres, Andrés Iniesta, David Villa ou encore Sergi Samper, donc il y a une petite connexion Kobe-Barcelone.
Voilà, c'est une équipe qui pourrait être intéressante. Bon, là, ils sont un peu vieillissants quand même, parce que David Villa, il est 37-38, il me semble. Iniesta, c'est pareil, mais. Mais ça joue au foot, quoi.
Je pense que c'est une belle expérience culturelle.
Génial.
D'aller jouer au Japon.
C'est juste extraordinaire, le Japon. Enfin, c'est fabuleux à tout point de vue. Et pour jouer, les infrastructures. Mais Vermaelen, quel âge il a, notre ami? Parce que lui, c'est même pas sorti des radars. Ah oui, bon, ok. Ouais,
il est passé vite.
Un peu mieux.
Thomas Vermaelen.
C'est jeune, 33 ans, François.
Surtout à son poste, hein.
Oui, c'est jeune. Du coup, je me suis posé la question de s'il aurait peut-être pas pu espérer rejouer au foot en Europe.
Bonne question.
À 33 ans, puisque c'est encore jeune.
Et après, non, mais le Japon, à sa place, va être.
Il était quand même en retraite. Si vous pourriez nous trouver, M. Planel, si vous avez un peu de temps, le nombre de matchs disputés par Vermaelen avec le Barça.
Alors, sache que quand il est arrivé à Barcelone, il s'est blessé au genou.
Oui.
Et donc, du coup, il n'est jamais revenu à son niveau, il n'a jamais eu sa chance. Donc,
mais il est resté au club.
Oui.
C'est sympa,
il
Barcelone
a
aussi. Parler du Japon,
au club, mais il a vraiment jamais joué en équipe première, donc
Ouais, c'est grosso modo 50 matchs hein, au Barça.
Je
à
pense
peine,
que physique.
Quoi, il a fait 3-4 saisons, je crois.
Physiquement, s'il part au Japon, 3, il y a une petite saison aussi.
4 saisons. C'est pas terrible. Hein.
Match à 4 saisons.
Surtout Arsenal, évidemment, pour Vermaelen, qui a été prêté à l'AS Roma également, hein, pendant sa période barcelonaise. Tiens, et pour terminer, Christophe, une rumeur folle est la Chine qui rêve de Wissam Ben Yedder.
Exactement. Le mercato d'été approche de son terme en Chine. Ça se termine le 31 juillet, le mercato chinois. Du coup, les clubs asiatiques eh bien, s'activent pour réaliser de gros coups. Ils ont de l'argent, je vous apprends rien. Alors, le Beijing Sinoboguan se montre ainsi prêt à boucler une opération d'envergure pour recruter l'attaquant du FC Séville, Ben Yedder. Auteur de 30 buts quand même, toute compétition confondue la saison dernière avec Séville. C'est un véritable pont d'or. Le club chinois a en effet informé Séville aujourd'hui qu'il était prêt à lever la clause libératoire de l'international français fixée quand même à 40 millions d'euros à l'occasion de ce mercato d'été. Mais ce n'est pas tout. Sans même négocier avec l'ancien Toulousain, la formation chinoise lui a soumis une proposition XXL. Un contrat en or sur plusieurs années avec un salaire annuel de 12 millions d'euros net, soit comme je suis très bon en maths, un petit million dans la popoche par mois.
Un million, putain, bien.
Bonne réponse.
On valide, si il part, on accepte, on se résigne et on aurait fait pareil.
Surprenant, non, mais de la part des Chinois, je pensais que ils avaient beaucoup donné beaucoup d'argent au début et que maintenant ils allaient calmer. Pas du tout. Ils en voient encore plus. Mais à voir, je crois qu'il y a des places d'étrangers limitées au sein des effectifs. Après, si on se met à la place de Ben Yedder, c'est dommage. Hein, il avait sa première sélection
contre les Ferroé,
c'est ça?
C'est pas fait encore. Non, il a eu la première sélection, c'était contre la Colombie. En amical, il a joué, marqué contre Andorre. Donc là,
ce sera dommage.
Lui et son agent peuvent penser qu'il commence vraiment à mettre un pied dans la porte de l'équipe de France. On est à une saison de l'Euro 2020.
S'il part là-bas, il s'enterre, on est d'accord.
C'est fini.
Après, il a l'occasion de mettre
je peux lui dire à
Ben Yedder là.
Je peux lui dire à Wissam que c'est pas la peine.
Non, mais.
C'était qui ça?
Ce serait vraiment dommage.
Il a fait qui là?
Ah non, Dédé,
je dirais. Il est chambreur. Mais non, mais oui. Vous connaissez pas Monsieur Jamin?
Je suis très candide, pardon, Nico.
Ben Yedder, deuxième meilleur buteur français la saison dernière, derrière Kylian Mbappé. Tu me disais 30 buts, toute compétition confondue.
Reste Merci. Avec nous, Wissam, reste.
Mais oui, reste avec nous. Peu. Reste en Europe, c'est fini. Oui, belle page mercato. Hein. Magnifique.
Excellente page.
Christophe. Merci, monsieur. Je me suis régalé. Moi, je suis comme un enfant à Disneyland avec vous. Hein. L'After, Damien, François.
Qui est dingue, qui est Mickey.
Ça fait longtemps que t'es pas allé à Disneyland. Faut que tu y retournes. Hein.
Oui, demain.
Toi, tu aurais pu être un personnage de Disneyland.
Tous on aurait pu être des personnages de Disney,
croqués par Disney. Merci Christophe. Messieurs, des matchs amicaux.
Je t'aurais vu dans les Aristochats, tiens.
Un match amical qui vient de se terminer de préparation, c'est l'AS Monaco qui s'est imposé 1-0 face au FC Porto grâce à son milieu offensif Gelson Martins dans la continuité et son gardien Benjamin Lecomte qui a arrêté un penalty. Je vous donne la composition de l'AS Monaco. Lecomte, Sidibé, Jemerson, Panzo, Balotouré pour la défense, Henrix, Golovin, Fabregas, Gelson Martins, Silla et Bosquilla devant pour l'ASM qui gagne après son match nul 0-0 face à Braga il y a 3 jours qui s'impose. Apparemment on a vu un excellent Benjamin Lecomte sur le banc, Falcao qui n'est pas entré en jeu. On est au 32-16 avec Raphaël, supporter monégasque. Salut Raphaël.
Oui, salut à tous, bonjour.
Salut Raphaël.
Bonsoir Raphaël.
Tu vois, quand je dis l'équipe Raphaël, là, l'équipe qui a débuté, on se dit qu'elle a de la gueule quand même, cette équipe de Monaco. Et si tout le monde retrouve la confiance, ça peut ressembler à quelque chose cette saison.
Ah mais j'espère bien, parce que vu le calvaire qu'on a vécu la saison dernière, ce serait bien de pouvoir réintégrer le top 3 et viser la Ligue des Champions. Après, c'est vrai que cette... La tournée qu'on vient de faire au Portugal est quand même intéressante, parce que on compte Braga et Porto, qui sont quand même des top clubs portugais, on n'a concédé aucun but. On a concédé quand même pas mal d'occasions, mais ça a été l'occasion de voir que Benjamin Lecomte est une très bonne recrue. Contrairement à ce qu'on a pu entendre, notamment au niveau du prix, moi je reste persuadé que c'est une très bonne recrue. Voilà quoi. Enfin, même Panzo, il y a plein de jeunes monégasques en fait qui peuvent être intéressants. Je reste persuadé que Sidibé, on doit le vendre à tout prix.
Il y a des clubs dessus, hein. Il y a des pistes pour le vendre.
Ah, j'espère bien. Franchement, j'espère bien parce que je trouve que Benjamin Henrix est vraiment très intéressant.
Newcastle aimerait attirer Sidibé notamment.
Oui, mais dans la compo du match, Nico, tu disais qu'Henrix avait joué et Sidibé aussi. Donc Henrix a été positionné plus haut, un poste qui n'est pas le tien.
Raphaël, en fait, t'as vu le match?
Comment ?
Tu as vu le match Monaco-Porto?
Il n'était pas diffusé malheureusement en fait. Il est suivi de bout en bout sur les réseaux, mais il n'était pas diffusé.
Non, ouais, je suis curieux de voir un peu la saison que va faire Golovin. Parce qu'il est arrivé, on avait beaucoup d'espoir en lui, ça a été compliqué.
Il y a eu quelques fulgurances quand même.
On espère avoir un peu plus de régularité. Et s'il a dû s'adapter maintenant, en plus de ça, à Monaco, ce qui est jamais simple. Mais ouais, on mise sur lui en tout cas pour qu'il apporte un peu de fluidité au jeu monégasque. Ça ferait du bien.
Et un Benjamin Lecomte aussi, Raphaël, qui va faire du bien dans le but monégasque. Hein.
Oh oui, parce que avec les différentes blessures de Subasic l'année dernière. Un Benaglio qui fait ce qu'il peut, mais qui était vieillissant. On a même eu Sedouci. Enfin, c'était très compliqué, même au niveau des gardiens de but l'année dernière. Donc oui, Benjamin Lecomte va rassurer. Et vous parliez là de Golovin. En effet, je suis tout à fait d'accord. Ça va être très intéressant parce que l'année dernière, quand il est arrivé après la Coupe du Monde, il était totalement essoufflé. Il s'est blessé.
Il a une cheville.
Donc en fait, sa préparation était tronquée. Alors que cette saison, il a vraiment pu préparer de bout en bout avec tout l'effectif, avec Léo Jardim. Et je pense qu'on peut lui donner les clés du camion avec Fabregas. Et ça peut être super intéressant si on a Gelson Martins, Rony Lopez ou même Gabriel Bosquilla qui peut être vraiment intéressant de retour de prêt à Nantes.
Après, les ballons, ils vont pour qui? Si Falcao ne reste pas, les Martins, les Rony Lopez, voire les Bosquilla, ils mettent les ballons pour qui devant? Ça, c'est la grosse interrogation à la SM.
Et puis derrière, dans l'axe, si tu repars avec un Jemerson comme qui sort de deux saisons assez compliquées...
A priori, c'est Glick Naldo, la colonne.
Là, il voulait Soumaoro, ça a été recalé.
Si Benoît Badiachil sera vendu ou pas, parce que Badiachil est vraiment aussi pas mal. Hein. On va voir, j'ai entendu parler qu'il y avait des rumeurs autour d'un départ de Badiachil. Après il y a le jeune espoir anglais Panzo aussi qui est intéressant et qui commence à être de plus en plus intégré dans l'effectif, parce que c'est vrai que Jemerson ça devient grave en fait, enfin
ce sont des joueurs surperformés.
Le Black Beckenbauer,
Jemerson, sérieusement, il y a deux saisons, était devenu une pointure en Ligue 1, en tout cas énorme, même, y compris en Ligue des Champions avec Glick. C'est un attelage
parce qu'en sub-régime on a l'impression.
Je pense que Jemerson, c'est comme s'il vivait en fait. C'est qu'il y a deux ans, il arrivait à se fondre dans le collectif, et parce qu'on avait Fabinho et Bakayoko qui arrivaient à stopper la plupart des attaques adverses. Mais au fond, ça a été un grand joueur. Ouais. Hein.
Raphaël, super recrue également dès la saison dernière. Hein, c'est Jelson Martins qui a signé finalement, qui a été acheté officiellement. Ouais. Là, on a une pépite à Monaco.
Ah, super nouvelle, franchement super nouvelle, surtout que de base c'était un prêt qui était sans option d'achat, donc moi j'étais pas très rassuré, et quand j'ai appris qu'au final, puisqu'on entretient des bonnes relations avec l'Atlético, avec les ventes de Ferrar, Carrasco ou même Thomas Lemar, je suis content qu'on ait vraiment pu le récupérer, et pour moi la prochaine étape c'est de se mettre d'accord avec Leicester pour aussi récupérer Adrien Silva qui a été vraiment très utile la deuxième partie de saison dernière. Et ce serait vraiment top de pouvoir retrouver Adrien Silva aussi. Mais pour le coup, c'est vrai que Jelson Martins, ouais, il va faire du bien. S'il ne se blesse pas, parce que j'ai envie de dire que l'effectif de Monaco, ça se résume à ça. Hein, c'est s'il ne se blesse pas, alors ça peut être intéressant. Mais parce que c'est là, vous parliez, si Falcao s'en va, à qui on met le ballon? J'ai envie de dire, Jelson Martins, c'est pourquoi pas à terme Pietro Pellegrini ou Ian Jubbles, parce que c'est des joueurs qui auraient pu être développés l'année dernière. Et qui n'ont pas pu malheureusement avec leurs blessures. Donc
si Falcao s'en va, moi c'est ma seule grosse crainte par rapport à l'ASM. C'est-à-dire que Pellegrini, on l'a pas vu. Goebbels non plus. Tenir l'attaque de Monaco, faut quand même que tu aies un joueur avec un minimum de bagage et d'expérience. Il n'est pas arrivé ce joueur, si Falcao s'en va.
C'est clair, et c'est pour ça que ça m'a vraiment énervé quand on n'a pas pu aboutir à la signature d'André Silva, parce que j'étais vraiment content. Je me suis dit, ouais, André Silva, ça peut être vraiment intéressant. On serait toujours sur la filière portugaise de l'ASM. Il serait pas déboussolé au sein du club.
Non, il doit faire quelque chose à Monaco. Il doit faire quelque chose.
Il faut se souvenir quand même.
Il faut
se souvenir du parcours de Falcao. C'est quand même incroyable. Il était en feu. Il se fait les croisés à Monaco. Après, il revient juste pour la Coupe du Monde 2014. à l'époque. Et après ça, il part à Manchester, ils en veulent plus. C'est-à-dire que mais c'était vraiment le dernier choix pour beaucoup de clubs. Même à Monaco, on se posait la question si on devait le garder.
Il passe à Chelsea aussi.
Chelsea, mais c'est, voilà, c'était limite
il revient à Monaco, il se relance à Monaco.
Il se relance et de nouveau, il devient indispensable à Monaco. Je veux dire, mentalement, c'est très fort. Quand
toi,
même.
Tu veux le lâcher, Falcao, c'est bon, merci. Merci beaucoup, monsieur Falcao, au revoir, Raphaël.
Oh non, non.
Tu veux le garder absolument?
Pour ce qu'il a apporté au club, c'est vrai qu'au tout début, c'était pas simple. Mais quand il est revenu, qu'on a gagné la Ligue 1, qu'on a fait demi-finale de Ligue des Champions, enfin, comment le laisser partir aussi vulgairement, j'ai envie de dire. Enfin, il mérite mieux que ça. Et si on n'a vraiment pas d'attaquant, bah bien sûr qu'on doit le garder. Je comprends bien que son salaire est assez conséquent.
Oui, mais il faut le garder. Il faut le garder, ah mais oui, alors là, pour le coup, l'argent, il est mérité. Hein.
Voilà, c'est exactement ce que j'allais
là,
dire.
Là, pour le coup, il vous l'a rendu. Hein.
Quand tu marques
des buts,
c'est
un problème. Et il peut le rendre encore. Surtout avec des pourvoyeurs de ballons comme ceux qu'on a cités avant. Il va encore te les claquer, minimum, les 10 buts en Ligue 1. Minimum, j'ai bien dit.
Ah, mais de toute façon, Falcao, il n'a pas besoin d'avoir 25 ans pour marquer. En fait, il est très malin, il sait se placer. Et l'année dernière, quand on était au bord de la Ligue 2, moi, je me souviens de dans les dernières journées d'un match contre Rennes. On est vraiment pas bien, on perd, et il arrive à mettre un doublé en quelques minutes, et voilà, match nul, et rien que ce genre de performance, on peut pas le demander à Moussa Silla, au jeune sud-africain Lyle Foster aussi, qui est en train d'être intégré dans l'effectif. On a besoin du Tigré, en fait. C'est lui le meneur d'homme, du moins. Pas le meneur de jeu, mais le meneur d'homme.
Raphaël, qu'est-ce que tu attends de la saison monégasque? Elle était extrêmement douloureuse la saison dernière. T'as un Jardim qui a déçu pour son retour. Hein. Il était revenu fort. Finalement, il s'est un peu écroulé. Qu'est-ce que t'attends de Monaco cette saison? Une place européenne? Est-ce que c'est réaliste?
Au-delà des objectifs, alors, si on peut parler d'abord des objectifs, oui. J'attends un top 3, en fait. C'est de retrouver,
ah ouais,
non pas l'eau. Je sais, quand on regarde l'effectif, en France, là, en Ligue 1, actuellement, il n'y a que vraiment le PSG et Lyon qui ont un plus bel effectif. Après, ça peut discuter avec Lille.
Et Marseille, si Marseille.
Avec l'OM.
Ouais, voilà.
Pour moi, il n'y a que Lyon et Paris qui a l'air d'avoir un effectif vraiment plus élevé. Ok. Mais après, au-delà des objectifs, l'année dernière, je me suis fait chier devant les matchs, quoi. J'ai envie de prendre du plaisir, j'ai envie de voir. Non pas, je veux quand même pas autant demander autant que ce qui s'est passé lors de la magnifique saison ou avec 4 buts de moyenne, mais au moins voir plus de buts, voir du jeu, arrêter de voir 2 blessés par match. J'ai envie de voir aussi, on en a même pas parlé, mais Jovetic aussi, quand il jouait, il était pas inintéressant, ce joueur. Donc il y a des solutions. Jardim, moi, j'ai 100% confiance en lui. L'année dernière, c'était particulier. Il est revenu dans une période qui était pas habituelle. Mais je pense que il y a l'effectif pour viser un top 3 et le mercato n'est pas fini. Là, j'entendais des rumeurs sur Blaise Matuidi. J'ai pas trop envie de m'exciter, mais c'est sûr que si Matuidi vient, ce serait cool. Mais bon,
François, il y croit pas.
Oui, c'est une opération. Enfin, les chiffres qui circulent, on est à plus de 50 millions d'euros.
Ouais, Monaco peut les mettre. Hein. Ah ouais. Je vous rappelle que Monaco a réussi la prouesse de vendre Tillmans à Leicester. 45 millions d'euros, quand même.
Oui, mais c'est un chiffre anglais, monsieur.
Ça, c'est fort. 45 millions d'euros
pour Yuri Tillmans. C'est un transfert anglais, Nico.
Un des coups du siècle.
Et puis, ils ont donné beaucoup d'indemnités à Jardim et à Henry.
Oui, il a fallu. Exactement. Voilà. Merci, Raphaël, d'avoir appelé au 32-16.
Merci à vous. Je vais juste passer un petit bonjour à toute la classe CGRO de l'IAE de Paris.
Voilà, c'est fait. Merci Raphaël, excellente soirée à toi.
Merci Raphaël.
Le 36, voilà. On va dans un instant, messieurs, Damien Perrinel et également François Manardo. Le thème qui vient,
c'est quel personnage de Disney vous pourriez être. Parce que là, les Aristochats, ça commence à prendre les tours.
Il y a un hashtag.
Je cherche. Gilbert Bribois, vous le voyez comment?
Il y a un hashtag acteur Disney. Tu l'as vu celui-là?
Gilbert Bribois, oui, c'est pour ça que j'en parle.
Gilbert Bribois,
je cherche.
Gilbert, qui Gilbert?
Pongo, peut-être.
Daniel Riolo, drôle aussi.
Pongo dans les Saints d'Almatien.
Quel personnage de Disney serait Daniel Riolo? A tout de suite, on revient dans un instant, on est ensemble jusqu'à minuit.
RMC, l'After Foot.